merci à vous tous de participer à cette nouvelle soirée organisée par l'Association des amis de la bibliothèque. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Je vous présente Michel Sauquet qui va prendre la parole. Michel, vous vous intéressez aux questions interculturelles à travers des activités d'enseignement et des activités de recherche universitaire. Aussi, un autre pôle de votre activité, c'était longtemps dans les activités internationales, la coopération internationale, pendant de longues années, dans des organisations au service des organisations internationales. Vous êtes enfin écrivain, poète, romancier, éditeur indépendant. Et vous avez publié, si j'ai bien compté, une vingtaine d'ouvrages. Et vous êtes aussi pour nous un frère de la fraternité séculière de Saint-François. Et j'imagine bien que cette appartenance à la famille de Saint-François a marqué vos engagements. D'ailleurs, votre avant-dernier ouvrage, le 19e, si je compte bien, s'intitule « Le passe-muraille, François d'Assise, un héritage pour penser l'interculturel au XXIe siècle ». Bon, avant-dernier ouvrage, celui qui précède, que nous en parlera ce soir. Et je lis à la fin de cet ouvrage les dernières lignes. Basculant d'un univers socio-économique et culturel à l'autre, François d'Assise, bien sûr, a promu toute sa vie et par toute sa vie un dialogue de paix entre les hommes, médiateur qu'il fut par nature, par histoire et par conviction. Un passe-muraille, donc. Alors, ce soir, vous allez parler du père de Saint-François, le drapier d'Assise, Pierre Bernardone. Donc, ça marche avec Saint-François pour l'interculturel, pour l'international aussi. Et il semble que ce soit plus difficile pour l'intergénérationnel. Est-ce que c'est la figure du père avec laquelle on est souvent un peu sévère aujourd'hui, à notre époque, qui pose problème? Ou bien est-ce que c'était un père trop sévère? Vous nous allez dire ce que vous pensez de ce lien, de cette muraille entre le père et le fils. Voilà. Je vous laisse la parole.
Merci.
Vous pouvez retrouver aussi Michel au Salon du Livre à la Porte de Versailles. Dimanche, il y a une zone où il y aura les éditeurs religieux. Et donc, il y aura dimanche toute la journée.
Non, l'après-midi. Je ne sais même pas à quelle heure, j'en suis désolé. Merci beaucoup, Eric. Merci de signaler cette signature, parce qu'en général, on passe deux heures dans ce genre de choses. Quand on ne s'appelle pas l'Ecclésio, à voir les gens passer, et il ne se passe généralement rien. Donc j'ai une expérience un peu... Parce que les 20 livres dont vous avez parlé se caractérisent tous par un point commun, c'est qu'ils ont tous à peu près ruiné mes éditeurs. Et donc voilà, l'enjeu, c'est que le droit-pied ruine un petit peu moins Salvatore que les autres. Donc merci Eric, merci beaucoup Pierre, merci à l'association des amis de la bibliothèque de cette invitation qui m'a un peu déconcerté au début, hein, c'est ce que je t'avais dit Pierre, mais voilà, ce qui est une occasion de débattre avec vous, et je voudrais qu'on ait un temps suffisant de débat justement pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, puissent donner un petit peu leurs questions et leurs témoignages, et puis les autres réagir à l'interminable présentation que je vais vous faire maintenant. Alors, dialogue de paix, hein, François, générateur de dialogue de paix, question, est-ce qu'il y a eu un dialogue de paix avec son père? Ça, c'est toujours pas résolu. Et là, je vais vous dire un mot de cette drôle d'aventure qui m'a conduit à écrire ce livre. Ça s'est passé en 2011, à Assise, vous voyez où c'est, lors d'un pèlerinage franciscain, fait avec Brigitte, mon épouse, qui est là, et puis Annie et Norbert, qui sont là aussi, qui ont assisté un petit peu à la genèse de ce projet, avec la fraternité à laquelle j'appartenais. Et à Assise, en écoutant l'histoire de Saint-François, en échangeant avec les autres, me sont tombés dessus à la fois une évidence et une énigme. L'évidence, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, frère Éric, que de la biographie de saint François, on peut tirer pas mal d'enseignements sur notre manière de penser l'interculturel aujourd'hui. Par le dépassement de nos peurs, c'est le loup de Goubiot, par la rencontre d'autres religions, c'est la rencontre avec le sultan, par un décentrement de nous-mêmes aussi, à travers le détour par l'autre différent, par le lépreux, par les brigands. Et donc ça a donné effectivement ce passe-muraille, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et on ne va pas en parler aujourd'hui, sauf si vous souhaitez qu'on échange là-dessus après. Et puis l'énigme. L'énigme qui m'est, si j'ose dire, restée dans le gosier à Assise et qui m'habille sur la piste du roman. Au fond, voilà un homme quand même qui veut être le frère de toute créature, qui brûle d'amour pour le monde entier, qui veut imiter le Christ dans le moindre de ses actes, qui rompt avec son père brutalement. On va rappeler les fêtes, mais il y a quelque chose qui colle pas. Donc pour moi, c'est une énigme et qui ne paraît pas. Enfin, en tout cas, les sources ne nous aident pas beaucoup là-dessus, à voir jamais chercher à se réconcilier avec lui. Et ça, pour moi, c'est vraiment une énigme. Et que pas une ligne ne soit consacrée à cette question dans les dizaines de milliers de pages qu'ont noirci les biographes, pour moi c'est à la fois c'est incompréhensible et c'est presque, si j'ose dire, un peu, c'est presque suspect. Je me demande s'il n'y a pas eu, on sait que les biographies ont été orientées souvent hein, par telle ou telle exigence institutionnelle ou autre, s'il n'y a pas eu une espèce d'omerta pour qu'un silence aussi assourdissant se soit abattu là-dessus. Est-ce que Pietro di Bernardone, le père de François, humilié, rendu fou de rage par cette rupture avec son fils, est-ce qu'il a continué à tempêter jusqu'à la fin de ses jours contre son fils? D'ailleurs, on n'a même pas la certitude de la date de sa mort. Vous voyez qu'on a quelques indices, la transmission de son patrimoine à son fils Angelo, mais en dehors de ça, on n'a aucune certitude. Est-ce que Pietro de Bernardone a continué à tempêter jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que, du côté de François, est-ce que la rupture n'a été qu'une promenade de santé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de la douleur là-dedans? Qu'est-ce qu'on en sait? Et ce genre de questions, au fond, je pense que vous, moi, n'importe quel père, n'importe quelle mère, n'importe quel fils, n'importe quelle fille peut se la poser. Dans cette idée d'une séparation définitive et incompréhensible. Alors sur place, sur les murets des ermitages d'Assise, en présence de mes petits camarades et obsédé par cette question, je me suis mis à écrire, frénétiquement d'ailleurs, parce que ça venait. Puis je suis revenu à Paris, j'ai laissé ça en souffrance pendant un an ou deux, et puis je me suis mis à lire ce que je trouvais sur saint François d'Assise. Il était temps, parce que j'ai quand même passé 40 ans dans une fraternité franciscaine. On peut dire que je n'ai pas été d'une activité, je n'ai pas été du tout un bon élève, et que bon, j'ai eu des choses, on a discuté, etc. Mais les livres qu'il fallait lire sur saint François, je crois qu'à l'époque, je ne les ai pas lus. Et si j'ose dire, mieux vaut moutarde que jamais, j'ai rattrapé mon retard en lisant beaucoup. Et en prenant des notes sur deux fichiers distincts. C'est pas que j'avais deux ordinateurs, mais enfin, il y avait deux fichiers. Il y avait un fichier passe-muraille et un fichier drapier, mais les sources étaient à peu près les mêmes, en dehors de mon imagination délirante. Alors, je voudrais rappeler les faits, sans raconter le livre, mais et puis en sachant que beaucoup d'entre vous les connaissent très bien, ces faits, sinon beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. François naît à la fin du XIIe siècle, en 1282, mais pour d'autres en 1281, on ne va pas perdre de temps là-dessus, à Assise, dans une famille dont le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une famille bourgeoise. Pietro di Bernardone, le père, est un drapier, comme vous le savez, très riche drapier. Sa mère, Dame Pica, est peut-être d'origine française, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est une légende. Et très tôt, il est initié au métier de négociant, un métier pour lequel j'ai l'impression qu'on nous rapporte qu'il démontrait d'inténiables talents. Excellent vendeur, malin, charmeur, très, très, très doué pour la vente, Sans doute qu'il a contribué dans la boutique de son père à l'enrichissement de la fortune familiale. Et on comprend que le père Bernardone fonde sur lui beaucoup de projets, beaucoup d'espoir. D'abord, il faut qu'après sa mort, il reprenne les rênes du commerce. Ce sera son successeur, son héritier, qu'il devienne encore plus riche que le père, si possible, qu'il soit encore plus puissant. Et puis aussi, il y a un petit fantasme qu'on retrouve d'ailleurs chez le père et le fils. Il faudrait, si possible, qu'il devienne chevalier, qu'il rentre dans cette aristocratie à la fois détestée par la bourgeoisie de l'époque et puis en même temps très enviée. Donc Pierre Bernardone sera content si un jour son fils devient chevalier, et d'ailleurs le fils, dans sa jeunesse, vise à cela aussi. Il va essayer de partir aux croisades, enfin c'est un peu son rêve aussi. Mais vous savez aussi que la jeunesse de François ne se résume pas à un simple apprentissage professionnel. D'abord, il mène une vie de bâton de chaise. Il fait les 400 coups. C'est un peu, on dit que c'est le roi de la jeunesse d'Assise. Il est très populaire. Et alors, en plus, comme il n'est pas le dernier des miséreux et qu'il dispose quand même de la caisse familiale, il régale tout le monde. Il régale tout le monde, il ne réfléchit pas trop, il paye toutes les notes de cabaret, et ça contribue pas peu à sa popularité auprès des autres jeunes d'Assise. Est-ce qu'on peut dire que ses parents, à l'époque, sont ravis? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont indulgents. Ils lui passent toutes ses frasques, et chaque fois qu'il est nécessaire, son père le renfloue. Les biographes insistent beaucoup là-dessus, hein, et on a un peu tendance à l'oublier, c'est que les parents de François, disent-ils, avaient pour lui une très grande tendresse. Pierre Bernardone n'était pas le fou furieux qu'on a décrit avant, il avait une grande tendresse pour son fils. Et puis, si je prends le point de vue du père, en tout cas, les choses se gâtent. Les choses se gâtent d'abord parce que François commence à changer. Sous l'effet de diverses mésaventures, vous vous rappelez peut-être la désastreuse équipée militaire vers Pérouse, la petite guéguerre entre Assise et Pérouse, où les Assisiates sont complètement ridiculisés. François n'est pas tué, mais il est mis dans un cachot extrêmement humide dont il sortira très malade. Mais aussi parce que il a changé sous l'effet de ses mésaventures, mais aussi parce que intérieurement il ressent quelque chose, un petit quelque chose, un manque, une sorte d'insatisfaction, peut-être un appel, qui fait que de plus en plus, dans les grandes équipées de tapage nocturne des joyeux drisses d'Assise, ses amis, il commence à traîner la patte. On le trouve en arrière des cortèges. Et puis il se met à distribuer des aumônes à de plus en plus de mendiants à Assise. Donc il se passe quelque chose. Mais ces aumônes, le problème, c'est que ces aumônes, eh bien, elles sont puisées tout simplement dans le tiroir caisse paternel. Et c'est là que tout va déraper. Peut-être que vous vous souvenez de l'appel reçu par François un jour dans une petite église à San Damiano, une église délabrée. François, je cherche l'icône de Saint Damien ici, mais je ne la vois pas. Elle y a été, bon, peu importe, mais enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur cette icône et que de cette icône lui parvient cette voix qui lui dit « François, va, répare ma maison qui, tu vois, tombe en ruine ». Alors François, au début, il comprend qu'il s'agit de rafistoler cette vieille église, alors que, en fait, c'est de l'église catholique en général qu'il s'agit. Mais enfin, il s'agit de rafistoler l'église, et alors là, il fait ni une ni deux. Il retourne dans la boutique de son père. Il fait main basse sur une grande quantité de draps très précieux. Il prend son cheval, il les met sur son cheval, il prend son cheval et il s'en va à Foligno, au marché de Foligno, où il vend tout. Et le cheval par-dessus le marché, d'ailleurs aussi, un cheval qui ne lui appartenait pas, pour en tirer une bourse d'or, c'est bien rempli, qu'il va donner en douce au curé de Saint-Damien. Et là, le père, quand il apprend ça, retour d'un de ses voyages, explose. Il explose pour deux raisons. D'abord parce que c'est du vol pur et simple. Et puis ensuite parce que, pour Pierre Bernardone, dilapider l'argent passe encore, mais il faut que ce soit fait sur la place publique. Au fond, dilapider, c'est le privilège des chevaliers, de l'aristocratie, mais on ne fait pas ça en douce. On ne fait pas le Robin des Bois pour aller distribuer ça à des gens, à des anonymes, etc. Donc ça, pour Pierre Bernardone, c'est une raison de fureur absolument totale. Et alors, c'est un sanguin, Pierre Bernardone. Peut-être que son fils l'a été aussi à certains moments de sa vie, d'ailleurs. Mais alors, comme à l'époque, François a manifestement peur de son père, ça nous étonne peut-être, mais enfin, il y a des sources qui disent qu'il a eu peur de son père à certains moments, il se cache pendant un mois, il maigrit, il dépérit, mais il prie beaucoup et il trouve la force d'avoir le culot de revenir à Assise un jour, dans son nouvel état, dépenaillé, illuminé, provocateur. Alors il y a tous les gosses qui courent après en criant Pazzo, Pazzo, le fou. Le fils est ridiculisé dans la ville d'Assise. Le père entend des bruits, il sort de son magasin et voit ce qui se passe. Et il voit que le fils est ridiculisé et donc que la famille est ridiculisée, qu'on est en train d'atteindre gravement l'honneur de la famille. Et là, il n'hésite pas, il prend son fils par le collet, il le traîne jusqu'à la maison paternelle et maternelle, où se trouve un cachot dont on a l'impression qu'il a été préparé depuis très longtemps pour lui. Il l'enferme, il lui fait mettre des chaînes, parce que le fils ne veut toujours rien entendre, et il le reste là-dedans. Il le laisse là-dedans. Et puis... son métier étant d'acheter, de vendre, de voyager, d'aller dans les foires en France et ailleurs, il part en voyage. Et à ce moment-là, vous vous rappelez peut-être que la mère, qui n'a pas tout à fait la même attitude vis-à-vis de son fils que le père, le délivre. Et alors là, au retour, le père, voyant que dès qu'il a le dos tourné, on bafoue ses ordres, est de plus en plus furieux et décide de le traîner en justice. Alors je passe sur les épisodes de cette affaire-là, ils veulent traîner devant les consuls, le fils dit « mais non, mais je suis, moi, consacré au père, donc je n'accepte que la justice de l'évêque ». Et du coup, il est traîné en justice devant l'évêque, sur la grande place d'Assise, avec beaucoup de monde tout autour. Et là, vous connaissez cette scène par cœur, on est... À la fin de l'hiver, en avril, François a à peu près 24 ans. Il se débarrasse à un moment donné de ses vêtements, il les roule en boule, il les dépose aux pieds de son père, et il a ces phrases à la fois théâtrales et assassines. Écoutez tous et comprenez. Jusqu'à cet instant, c'est Pierre Bernardone que j'ai appelé mon père, mais puisque je me suis proposé pour servir Dieu, je lui rends l'argent pour quoi il se tourmentait, et tous les vêtements que j'ai reçus de lui, car dorénavant, je veux dire notre père qui est aux cieux, et non plus mon père Pierre Bernardone. » Ou dans d'autres sources, c'est presque encore pire, c'est « désormais, je n'appellerai plus père le nommé Pietro di Bernardone. » Le nommé Pietro di Bernardone. Et là, on peut remarquer qu'il ne s'adresse pas à son père. Il s'adresse à la foule, mais il ne s'adresse pas à son père. Et même, il y a un moment où... si vous connaissez bien la fresque de Giotto sur cette scène, c'est intéressant de voir les attitudes des uns et des autres. Dans le roman... Bernardone dit « Si au moins tu t'étais opposé ouvertement à moi, si tu m'avais injurié comme je t'ai injurié. » Mais non. Quelques paroles définitives, qui ne m'étaient même pas adressées. J'attendais ne serait-ce qu'un regard, mais les yeux levés au ciel, la mine joyeuse, comme libérée, tu étais déjà ailleurs, paraissant n'avoir plus d'attraction que céleste, tandis que la pesanteur de mon corps écrasé sous le fardeau de tes vêtements restitués m'entraînait si lourdement vers le pavé que je dus faire un effort surhumain pour tenir debout et parvenir à quitter la place sous les quolibets. » Ça, vous le voyez vraiment dans la fresque de Giotto, l'un regardant vers le ciel et l'autre encombré des vêtements de son fils et entraîné vers le sol. Après, on sait qu'après, chacun est parti de son côté. Bernardone humilié, dévasté, accablé, furieux, désespéré, et François libre comme l'air, prêt à assumer pleinement sa nouvelle vie. Et à en rester au peu que les biographes nous disent là-dessus, on ne sait à peu près rien après leur relation. On sait qu'ils se reverront à quelques reprises dans les rues d'Assise, d'ailleurs de façon orageuse, parce que le père, voyant son fils, le maudit, et le fils, entendant ses malédictions, recourt au service d'un mendiant qui l'accompagne pour qu'il le bénisse, parce qu'à cette époque-là, maudire, c'était pas uniquement des paroles en l'air, ça produisait des effets. Donc le fils avait trouvé une sorte de paire de substitution, si j'ose dire, pour équilibrer les effets de la malédiction. Donc ils vont se revoir de temps en temps, mais rarement, puis surtout après, on ne sait absolument rien. Et à partir de là, on quitte le domaine de ce qu'on pense savoir et on rentre dans les méandres de mon imagination. À partir de là, j'ai imaginé. J'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête du père. Et je vous propose qu'on énumère ensemble tous ces griefs, qu'on essaie de se mettre un petit peu une minute à sa place. François a trahi tous les espoirs que Pierre avait mis en lui, succession, accession à la noblesse, etc. Et là, je trouve qu'on est dans un problème que rencontrent beaucoup de familles aujourd'hui, qui, au fond, sont un peu déçues de voir que le chemin emprunté par leurs enfants n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé pour eux. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, personnellement, mais je sais très bien que pour beaucoup de familles, c'est une question un petit peu dramatique. Deuxièmement, deuxième grief, François, il a volé. Il a volé, et même s'il lui a rendu un peu de son or, au fond, il a largement, allègrement profité de lui. Tout le temps, hein, dans le roman, Pierre rappelle à son fils, de manière un peu obsessionnelle, ce qu'il lui a coûté, en banquet, en riches habits, en harnachement, en armure, quand il voulait partir à la croisade. Et d'ailleurs, les quelques personnes qui ont eu la gentillesse de lire pour critique le manuscrit avant sa publication m'ont dit « on se répète, hein, on se répète vraiment, là. Il faudrait quand même que tu écrèmes un petit peu cette affaire-là, parce que ça devient un peu lourd. » J'ai écrémé, mais il en reste quand même, parce que je crois qu'il y avait quelque chose de très obsessionnel. C'est cet homme qui jamais ne manquera de rappeler qu'il s'est fait tout seul. Qu'il n'est pas né, lui, dans un berceau d'argent, que sa fortune ne doit qu'à son travail. C'est un self-made man, au fond. Et il le dit, je n'étais pas héritier, moi je ne me suis pas contenté de cueillir sur les branches d'un arbre paternel ces bourses d'or bien mûres dont tu t'es goinfré si longtemps et qui t'ont permis si souvent de régaler ta joyeuse bande de fêtards. Je me suis fait tout seul. Ma fortune, c'est celle d'un honnête homme, travailleur et intègre. Je n'ai jamais rien volé à personne. J'ai fait du profit, du bon profit, c'est tout. J'ai fourni pendant des décennies à une ville entière ce que l'Europe produit de plus beau en velours et en drap brodé. J'ai pleinement mérité cette aisance dont tu as si bien profité avant de me la vomir sur le visage. » Là, on est quand même dans des questions très actuelles, au fond. Pierre Bernardone, c'est la valeur travail. C'est poussé très loin, c'est le travailler plus pour gagner plus. On connaît ça autour de nous, et de la part de gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui ont grandi dans une culture de la recherche de l'excellence, de la compétition, et qui n'arrivent pas à admettre, ça je l'ai entendu souvent, parce que moi j'ai grandi un petit peu effectivement dans cette espèce d'ambiance de compétition, de gens qui n'arrivent pas à avaler cette histoire des premiers qui seront les derniers. C'est quelque chose d'aberrante et inacceptable. Au fond, entre ce que le père demeure dans sa personnalité et ce qu'est devenu le fils, qui lui a fait de la pauvreté plus qu'une valeur, il a fait une amoureuse, hein, il l'appelait dame pauvreté, une espèce d'esprit très chevaleresque, qui a exalté la minorité. Au fond, entre les deux, il y a une confrontation de deux logiques, de deux univers, de deux systèmes de valeurs qui sont radicalement différents. Avec un choc d'ailleurs de radicalisme. Radicalisme du père, d'une certaine vision du socialement correct, c'est comme ça qu'il faut faire, de l'honneur de la famille, du radicalisme des intérêts acquis, du profit acquis. Et puis chacun dans sa bulle. Et là, je pense aujourd'hui, c'est peut-être leur sujet, mais je pense à ces scènes extravagantes que peut-être certains d'entre vous ont vues à la télévision il y a 2 ou 3 jours, des réactions des riverains du 16e arrondissement face au projet d'installation d'un malheureux équipement pour 250 sans-abri en lisière du Bois de Boulogne. On a entendu là des propos d'une grossièreté, d'une violence extraordinaire, montrant bien la panique que peut avoir un groupe de personnes qui sont menacées dans leurs intérêts. Et au fond, Pierre Bernardone, c'était peut-être un petit peu ça. On est un peu moins grossier quand même, je trouve. Voilà, donc radicalisme aussi, voilà, ce radicalisme-là de la bulle, je suis dans ma bulle, je ne veux pas qu'on y touche, versus le radicalisme de l'évangile pris au pied de la lettre de ce François qui veut voir l'évangile sans commentaire, sans glose, direct au pied de la lettre, et qui n'est pas trop prêt à céder du terrain là-dessus, de même que son père n'est pas trop prêt à céder du terrain non plus sur son statut social. Troisième grief. Le père François l'a humilié aussi, il a sali l'honneur de la famille. Et là, on vient dans, je suis quelque chose de très actuel, la peur du qu'en dira-t-on, le souci du maintien d'un statut social. Il a mis à mal sa relation avec son épouse, forcément, parce qu'elle ne le suivait pas dans son jugement sur son fils. Elle était beaucoup plus tolérante que lui, beaucoup plus proche finalement de son fils. D'ailleurs, la figure de la mère, elle est très importante dans la vie de Saint François, d'après ce que j'en ai compris. Vous vous rappelez peut-être que François disait, ou on disait de François qu'il se conduisait vis-à-vis de ses frères comme une mère, pas comme un père, comme une mère. Et donc la figure de la mère était très importante, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Autre grief, il l'a privé officiellement, en public, de son identité de père. C'est dur quand même ça. Enfin, je sais pas, mais mettons-nous à sa place. Quand même dur. Qui d'entre nous pourrait supporter ça? Être renié par son fils? Être considéré comme rien par son fils? Être jugé par son fils, finalement? Parce que, en tout cas, c'est l'opinion du père. Alors que le fils passait son temps à s'occuper des plus pauvres, des lépreux, des déshérités, au fond, il a fait de son père le dernier des parias, le nommé Pierre Bernardone. Là-dessus, Pierre Tempête, tu peux bien prétendre suivre ton Jésus pas à pas, soigner la terre entière, proclamer le règne de l'amour, si c'est pour m'exclure de ton monde, fouler aux pieds les plus élémentaires règles de la piété filiale et m'envoyer au diable, alors tu te mens à toi-même, Francesco, tu as perdu la raison. Le père pense très honnêtement, très sincèrement que son fils est devenu fou. Ce qui n'est pas non plus très agréable pour un père. Et enfin et surtout, c'est le dernier grief que je citerai, peut-être que surtout dans l'esprit de Bernardone, il a trahi la tendresse qu'il avait pour son fils. Il l'a traité comme rien, il l'a piétiné. Après tout ce que j'ai fait pour toi, quelle ingratitude. Alors qu'en fait, le fils, il a beau être parti de la maison familiale, il est quand même toujours très très présent dans la tête du père, qui finalement préférerait qu'il soit à l'autre bout du monde. Ah Francesco, que n'as-tu été t'établir à l'autre bout du monde? Pourquoi n'as-tu pas traversé les océans? De sorte que pour avoir de tes nouvelles, il me faille attendre des mois, des années entières. J'aurais pu t'oublier. Au lieu de quoi, toute l'ombrie ici bruise de ta présence. Tout ici me parle de toi. J'ai beau me boucher les oreilles et les yeux, tu es là, sans cesse, pour mon tourment. Donc, ce père, au fond, il avait beau être près de ses sous, c'est le moins qu'on puisse dire, sanguin, brutal, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il avait des raisons d'être amer. D'avoir des boules, si je peux me permettre cette expression un peu triviale. Et puis, ce qu'on ne sait pas, au fond, c'est si Pierre Bernardone a pu être, à un moment donné, touché par la démarche spirituelle de son fils. Ça, vraiment, on ne sait pas. Il était chrétien, comme tout le monde, à l'époque, ça ne se discutait même pas. Mais est-ce que sa foi était réelle? Est-ce qu'elle était purement superficielle? On sait que Dame Pica, sa femme, avait certainement une foi beaucoup plus profonde. Les biographes en parlent un petit peu plus. Et a peut-être mieux compris son fils. Mais lui, qu'est-ce qu'on en sait? Ensuite, je me suis demandé, là c'était plus difficile, ce qui a pu se passer dans la tête de François. Est-ce qu'il a réellement méprisé son père? Est-ce que éternellement il lui a reproché sa richesse? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Personnellement, je ne le crois pas. Il y a dans la, je crois que c'est dans la deuxième règle de l'ordre, un curieux passage que je vous lis et qui plaiderait en faveur de l'inverse. François dit, écrit dans cette règle, et que tous les frères soient vêtus de vêtements vils et puissent les rapiécer de sacs et d'autres pièces avec la bénédiction de Dieu. Mais je les avertis et je les exhorte à ne maîtriser ni juger les hommes qu'ils voient vêtus de vêtements raffinés et colorés, d'usés d'aliments et de boissons délicats, mais plutôt que chacun se juge et se méprise soi-même. Donc dans ces conditions, ça inscrit dans la règle, est-ce que François pouvait mépriser son père ? Je ne le crois pas. Est-ce que dans l'esprit de François, son père l'empêchait de vivre à ce point qu'il n'ait pas cherché à le revoir ? Est-ce que c'était un obstacle à sa vocation, à ce point qu'il fallait couper les ponts de façon irréversible ? Au fond, est-ce qu'il s'agissait là aussi, pour François, d'une application à la lettre des paroles de cet évangile sur lesquelles il ne fallait pas faire de glose, hein, qui vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie ne peut pas être son disciple ? Est-ce que, sur le long terme, il avait peur de son père, au point qu'il fallait l'oublier au plus vite ? Puis là, alors là, je recours à votre connaissance bien supérieure à la mienne de la littérature sur Saint François. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'études psychanalytiques sur la personnalité de François. Il y a bien Jean-Marc Charon qui a écrit « De Narcisse à Jésus, la quête de l'identité chez François d'Assise », un bouquin passionnant d'ailleurs, mais où on parle pas beaucoup du père. Et je me dis que là, c'est vraiment un terrain de réflexion psychanalytique intéressant. Mais en tout cas, à mon avis, on trouve là un cas de déficit de communication entre parents et enfants, je pense très fréquent à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Un déficit de communication, on ne se parle pas assez, on ne se parlait pas assez avant la rupture, on ne se parle plus après, on n'ose pas se dire les choses, et les uns et les autres vont mourir sans qu'on ait eu le temps de leur dire ce qu'on avait à leur dire. On a tous vécu ça, par exemple avec nos parents. Donc un déficit de communication important. Et puis dernière question que je me pose sur François, est-ce qu'il a gardé davantage de contact avec sa mère, Dame Pica, qu'avec son père ? Dans le roman, je le suppose, mais ça n'est peut-être que pure spéculation. Donc plein de questions sur lesquelles, encore une fois, les biographes ne se sont pas beaucoup penchés et qui peut-être nous éclaireraient sur la personnalité de François. Comme le roman voit la chose à partir des lunettes du père et à degré moindre de la mère, je dois avouer que j'ai pas essayé de creuser tellement ces questions-là. On est vraiment ici autour de la figure du père. Ceci dit, d'abord j'aimerais avoir votre opinion là-dessus dans le débat qui va suivre. Et puis là, je viens de recevoir un mail d'un ami qui me dit que au fond, au fil des pages, qui me dit en substance, au fil des pages, la figure de François apparaît de plus en plus dans le roman, en clair, elle apparaît en clair, comme une photo en négatif. Donc au fond, est-ce que le regard du père peut nous aider à voir quelque chose de nouveau sur François ? Je ne sais pas, je l'espère. Mais en tout cas, j'ai été très touché à cette... j'ai été très touché de cette remarque. Au fond, est-ce qu'on peut penser le fils à partir du regard du père ? Toujours est-il, et là on en revient au roman, que Pierre Bernardone cherche à comprendre. Tout ça est quand même trop incompréhensible, trop fort de café pour lui, il faut qu'il comprenne. Et ceci, pas seulement parce qu'il estime avoir été trahi, mais aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose qui, dans le destin de son fils, quand même le fascine. Il veut creuser ce mystère-là. Alors il multiplie les stratagèmes pour percer ce mystère. Il paye des espions à prix d'or pour se faire passer pour des membres de l'entourage de François, et puis pour rapporter ensuite au père les faits et gestes de son fils. Parfois il se déguise, il va dans des églises où prêche François et il se met derrière des colonnes pour ne pas être reconnu, pour l'entendre prêcher. Puis il tente de le mettre à l'épreuve. Il tente de faire courir des rumeurs sur son fils aussi, et il tente de le mettre à l'épreuve. Notamment en soudoyant, alors ça c'est là que mon imagination débridée a joué, je le reconnais, en soudoyant des femmes dites de petite vertu, qui étaient peut-être par ailleurs très vertueuses, pour qu'elles le fassent tomber. Et en fait, Pierre Bernardone, dont j'ai fait, là aussi c'est une petite liberté que j'ai prise, mais peut-être excessive, un peu un homme à femme, quelqu'un qui aimait bien de temps à autre courir les jupons, d'autant plus que... étant fâché avec sa femme, il fallait qu'il aille trouver ailleurs, etc. C'est une supposition. Pierre Bernardone s'en prend directement à la relation de son fils aux femmes. Il essaie de le coincer là-dessus. C'est pas très difficile d'ailleurs, parce que cette relation elle est très complexe. Au fond, dans la vie de François, il y a eu trois femmes. Il y a eu sa mère, il y a eu évidemment Claire d'Assise, en tout bien tout honneur. Parce que de toute façon, chaque fois qu'ils se rencontraient, il y avait un frère d'un côté et puis une sœur de l'autre, et ils n'étaient jamais ensemble tout seuls. Ça, les biographes nous le disent très bien. Et puis il y a une drôle de personnage qui s'appelle Jacqueline Frangipane de Settisoli, Giacomina dans le roman. J'insiste un petit peu là-dessus parce que elle joue un rôle dans le roman à un moment donné. Jacqueline Frangipane, la frangipane de nos galettes des rois, c'est elle qui a inventé ça. Elle faisait des gâteaux à la frangipane à François qui adorait ça. Elle s'est beaucoup occupée de lui, notamment au moment de sa mort. Et donc il y avait eu entre cette riche veuve romaine et François une relation très très forte. Mais pour le reste, et en dehors de ces trois femmes, François avait une attitude quand même de très grande méfiance par rapport au sexe féminin. Il les fuit comme la peste. Il met en garde ses frères contre les femmes. Quand la tentation lui arrive, il va se rouler dans les épines ou se jeter dans les étangs glacés. Donc il est très radical là-dessus. Voilà le type de démarche à la fois curieuse, d'espionnage de Pierre, et puis de mise à l'épreuve du fils de temps en temps. Et petit à petit, il apprend beaucoup de choses. Et le roman nous montre ses réactions, qui d'ailleurs sont souvent épidermiques, lorsqu'il découvre des aspects de la vie de son fils qu'il ignorait. Le rapport à la nature. Alors lui, la nature, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se vend, c'est les objets, c'est les villes, c'est la pierre, etc. Le goût pour la solitude et les retraites dans les anfractuosités de rochers. Ça nous avait tous beaucoup frappé quand on avait été assises la dernière fois. Cette propension de François à aller se coller dans des failles, dans des anfractuosités de rochers. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais rêvé d'appeler ce livre « La faille », parce que c'était non seulement les failles de François, mais c'était aussi la faille du père, au fond, qui va s'agrandir un petit peu. Je pense que l'éditeur a eu raison, a eu raison commercialement de me faire renoncer à ce titre. Mais alors là où Pierre Bernardone va sauter au plafond, c'est le jour où il apprend que François, c'était en 1220, a décidé d'abandonner la direction de son ordre pour la transmettre à Pierre Catani. Et là, c'est l'explosion. Parce qu'il se dit, au fond, mais bon, que tu voulais renoncer à l'argent, moi je veux bien. Enfin, je veux bien, non, je veux pas, mais bon, ok. Mais je suis beau joueur. Je vois bien que tout le monde parle de toi. Je vois bien que tu as réussi à monter un truc géant. Des milliers de gens te suivent. Tu es à la tête d'un ordre, finalement, florissant. Ça a de la gueule, c'est quelque chose. Là, j'ai plus honte de toi. On peut recommencer le dialogue, etc. Eh ben non. Ça aussi, je le passe à d'autres. Et là, Pierre est vraiment très, très, très en colère. Il y a beaucoup de colère dans ce livre, mais il n'y a pas que de la colère. Et puis, surtout, maintenant, je m'arrête là sur le livre pour ne pas dévoiler la fin du livre. Je finirai peut-être par une ou deux petites remarques sur le processus d'écriture de ce livre. Le parti d'écriture, c'est la lettre. C'est la lettre écrite au jeu, en prévision d'une rencontre qui aura peut-être lieu, qui aura peut-être pas lieu, on ne sait pas. En tout cas, Pierre Bernardone s'est débrouillé par l'intermédiaire de notre amie Jacqueline Frangipane de Settisoli. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié de vous dire que François, encore quelque chose de très caractéristique de son rapport aux femmes, a fini par l'appeler frère Jacqueline. Donc, il s'arrange pour prévoir une rencontre, que la rencontre ait lieu. On ne va pas arriver à savoir si elle aura lieu ou pas. Et comme Pierre se connaît sa facilité à exploser ou à devenir muet de sidération, il se dit peut-être que j'arriverai pas à parler, donc j'écris. Je lui écris, j'écris. Donc tout ça, c'est 15 ans après la scène de la rupture. Peut-être qu'il va y avoir cette rencontre, et donc j'écris pour préparer ça. C'est un peu une lettre de plaidoyer. J'instruis ma défense. Je te redis mes griefs et mes problèmes. Donc on va tout avoir là-dedans, la colère, la sidération, l'amertume, peut-être aussi la curiosité, et puis peut-être aussi un peu ce doute qui peu à peu s'installe dans le cœur du père. Ce livre, il n'est pas bien gros, c'est vite lu, j'espère. C'est dur à lire, mais compliqué, ou je ne sais pas. Enfin, c'est pas une somme. Mais en fait, j'étais amené à travailler un petit peu, à lire beaucoup, parce que j'étais très ignorant de tout ça. Donc à la fois auprès sur son ancienne, là, c'est Nano, Bonaventure, tous ces biographes presque contemporains qui sont venus juste après François. Et puis aussi des analyses plus récentes, une littérature plus récente, les Julien Green, les Omar Englebert, les François Delmas-Gouillon, qui devait être ici ce soir, mais qui est au Salon du Livre en ce moment sur le stand, des éditions franciscaines. Bouquin absolument remarquable, Saint-François d'Assise, frère de toute créature. J'ai lu des historiens aussi, Le Goff, Vauchez, et ce que dit Dallarin, qui est un... Jacques Dallarin, qui est un grand spécialiste de François et qui a animé l'édition des sources. Bon, donc c'est pas pour me jeter des fleurs, parce qu'en réalité, ce qui est nul, c'est que j'avais pas lu ça avant. Et en tout cas, pour ça, la bibliothèque de la rue Boissonnade a été d'une grande aide. Merci encore, Pierre, de ton accueil. Merci aussi à... Je ne me rappelle plus votre prénom, mais je vous remercie très chaleureusement de votre accueil aussi. À Monica. C'était un endroit d'abord plein de choses. Et j'ai trouvé notamment des traductions d'un long livre de Fortini, l'ancien maire d'Assise, qui m'ont beaucoup aidé. C'est un lieu vraiment de... Voilà, on est dans un bain, il y a quelques thésards ou de chercheurs qui sont là, il y a Pierre, il y a Monica. C'est un vrai plaisir de venir travailler ici, vraiment merci. Et en fait, si je me suis obligé à essayer de creuser tout ça, c'est que j'étais évidemment pétri, comme pour le passe-muraille, par la crainte de l'imposture. Qu'est-ce qui fait qu'un type comme moi se permet d'écrire quelque chose sur François? Je continue d'ailleurs à me le demander. Qu'est-ce qui peut l'autoriser à tricher? Alors, au début du livre, je dis je n'ai triché sur rien, puisqu'on ne sait rien. J'ai juste triché sur un point qui est probablement que j'ai fait mourir le... Enfin, mourir, d'ailleurs. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? J'en sais rien. Vous verrez, vous lirez. Après 1220, c'est-à-dire après le moment où il lâche la direction de son ordre. Voilà. Et puis, oui, autre source, peut-être un petit peu... ma propre expérience de fils et de père, même si ce livre n'a absolument rien d'autobiographique. Je pense que quand on écrit sur ce genre de relation, on a tous des choses qui nous reviennent, d'autres situations. Voilà. C'était une aventure. C'était une vraie aventure. Moi, j'ai toujours remarqué, ça m'a toujours frappé, que, au fond, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que c'est loin de n'être que le débouché d'une pensée ou d'une recherche. C'est loin que de n'être qu'une mise en forme. Quand on est au pied du mur de l'écriture, eh bien on est amené à changer, à réviser son jugement sur un certain nombre de choses, à évoluer soi-même. Et je dois dire que moi-même, et particulièrement pour cette troisième partie dont je ne parle pas, on a cheminé un petit peu ensemble, la plume et moi, ou le clavier et moi. La plume de Pierre Bernardone et mon clavier très terre-à-terre. Et que j'ai changé avec lui peut-être, je ne sais pas. Voilà. Où est-ce qu'on écrit un livre, après tout? Il y a un écrivain dont je ne me rappelle plus le nom, malheureusement, j'ai essayé de le retrouver, c'était Pierre Michon ou quelqu'un comme ça, qui dénonçait la vacuité des livres faits pour être lus, comme extraordinaire. Une manière de dire, si je cherche uniquement à plaire au lecteur, et que je ne dis pas vraiment ce que j'ai dans le ciboulot, eh bien, j'écris mal. Donc c'est très extrême, mais bien entendu qu'on cherche, aussi à être... On a envie de partager quelque chose, pas de transmettre, de partager, et de travailler une question, d'élucider une énigme, de mettre quelque chose en débat. Et c'est là que je m'arrête, pour qu'on puisse justement, à partir de vos questions, de vos témoignages, de vos critiques, s'il y en a qui ont lu le livre et qui ont apporté des tomates pourries, c'est le moment, mettre tout ça en débat avec vous. Et voilà, je suis très curieux en tout cas de savoir quelles sont vos réactions là-dessus. Et même, je vais prendre un bloc de papier, je vais prendre des notes, parce qu'il y a un proverbe grec que j'applique pas du tout ce soir, mais que je trouve formidable, qui dit que que la nature a donné à l'homme deux oreilles et une seule bouche pour qu'il puisse écouter deux fois plus qu'il ne parle. Je dois toujours trouver ça très joli.
Merci à Michel.